Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 7 de 2 Corinthiens. Et Paul et les Corinthiens, ce n'était pas une relation facile. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est la différence de ton de lettre entre la première lettre aux Corinthiens et la seconde lettre aux Corinthiens. Dans la première, il leur avait fait des reproches assez vifs. Et on ne sait pas exactement combien de lettres ont été échangées. On pense qu'en fait, 1 Corinthiens, c'est la deuxième lettre qu'il leur a envoyée. Et qu'après la première lettre aux Corinthiens, qui serait vraiment la deuxième, il y en a une troisième dont on n'a pas gardé trace. Et si vous vous souvenez, dans la première lettre aux Corinthiens, on avait vu qu'il avait des reproches à leur faire concernant leur mondanité. Vous vous souvenez qu'ils se disputaient entre eux pour savoir qui était leur leader. Il y en avait qui disaient qu'ils étaient de Paul, d'autres d'Apollos, et en fait, lui, il disait qu'il fallait être de... Ou même, il y en avait certains qui disaient qu'ils étaient du Christ. Il y avait un orgueil, des disputes. Il y avait des choses qui apportaient un reproche à l'Église. Ils allaient se battre devant les tribunaux. Au lieu d'essayer de régler leurs problèmes entre chrétiens d'abord. Il y avait beaucoup d'immoralité. La ville de Corinthe à l'époque, c'était un peu comme Miami. Ou peut-être Nice. C'est une ville connue pour son immoralité. Et le monde influençait la ville. Le monde influençait la ville, influençait l'Église qui était là. Le mode de pensée avait déteint sur l'Église. Et il leur disait, on entend parler, 1 Corinthiens 5, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ce qui était terrible, donc il y avait cette relation d'inceste qui était incroyable. Mais qu'ils trouvaient ça cool. Ils étaient encore plus libres d'esprit que les gens de la ville. Et Paul leur avait reproché aussi de ne rien faire vis-à-vis de cette situation et de trouver que c'était admirable d'être large, aussi large d'esprit. Mais dans notre passage aujourd'hui de Corinthiens 7, plusieurs années plus tard, le dernier verset du chapitre 7, Paul leur dit « Je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. » Qu'est-ce qui a bien pu accomplir une telle transformation?
What could have caused such a transformation?
Et on a dit en fait que Paul, il essayait toujours de gagner leur amour. Il a dans son cœur, ça a été dur pour lui de les reprendre sèchement. Et bien sûr, ça ne l'a pas rendu populaire. Et il leur a dit, on a vu déjà au chapitre 6, que lui, son cœur, il était toujours plein d'amour pour eux. Il avait un cœur largement ouvert à eux. Verset 11 du chapitre 6.
And we saw in chapter 6 and verse 11 that Paul had a heart that was big and open wide towards the Corinthians.
Et en fait, ce n'était pas un manque d'information sur Paul et ce qu'il représentait, c'était plus du manque d'amour pour lui parce qu'il s'était ouvert au monde.
It wasn't a lack, I'm not sure I understand.
Moi non plus. Leur problème, ce n'était pas que ce que Paul avait fait ou ce qu'ils ignoraient de Paul. C'est qu'ils avaient ouvert leur cœur au monde. Et ça, c'est un principe général. Si vous ouvrez votre cœur au monde, à ses valeurs, vous allez automatiquement fermer votre cœur à Dieu et à ce qu'il représente et à ceux qui le représentent. Jacques le dit dans Jacques 4:4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend l'ennemi de Dieu. Bien souvent, c'est facile de se rappeler de ce verset, hein, c'est Jacques qui conduit son 4x4, tout flambant neuf. J'ai rien contre les 4x4, les 4x4, c'est les 4x4. Hein. Mais vous pouvez vous rappeler que quand vous voyez un 4x4, inimitié avec Dieu si on aime le monde. Tout est bon pour se rappeler la parole. C'est un principe absolu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, le roi des richesses, le Dieu des richesses. On aimerait tant pouvoir le faire. Le monde est très attrayant. La sagesse, l'amour de Dieu sont aussi très attrayants. Et on aimerait bien pouvoir faire les deux. C'est pas possible. Et Paul, justement, il sentait qu'ils avaient cette influence dans leur vie du monde, et c'est pour ça qu'il disait, ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. Dans le contexte précis, il faisait référence aux faux prophètes, aux faux apôtres plutôt, qui donnaient de fausses doctrines, qui répandaient de fausses doctrines. Nous avons vu aussi que cela s'appliquait à 100% dans le domaine du mariage. Dans le domaine des affaires, du monde des affaires. Ne pas s'associer pour créer une entreprise avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dans le domaine du mariage, ne pas se marier avec un non-chrétien si on est chrétien.
Or in the area of marriage,
ou même simplement être ouvert aux influences de doctrines qui ne sont pas la vérité biblique. Il se peut même que vous soyez influencé par de soi-disant chrétiens. Qui en fait sont plus attirés par le monde que par Dieu. Si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous encourage plutôt vivement à emprunter la cassette du message. Donc Paul va se présenter à eux en leur demandant de « Faites-nous de la place dans votre cœur », verset 2. Nous allons lire à partir du verset 2. Et là encore, je vous demanderai votre attention parce que le commentaire, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est le texte de la Bible. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela, car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande assurance à votre égard, j'ai bien lieu de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'enfoncé, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai pas eu lieu d'en rougir. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, s'est trouvé être aussi la vérité. Et sa tendresse pour vous est encore plus grande au souvenir de votre obéissance à tous. Car vous l'avez reçu avec crainte et tremblement. Je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. Donc une lettre remplie, un passage rempli d'amour et de reconnaissance. Il y est question de consolation et de repentir, ou de repentance. Paul peut s'adresser à eux parce qu'au départ, verset 2, il a la conscience tranquille. Et souvent, devant des attaques, c'est la seule chose qui nous reste, c'est de dire « Pensez ce que vous voulez, mais moi j'ai la conscience tranquille. » Et déjà à 4 reprises dans les 2 lettres, il a fait appel au fait qu'il avait la conscience tranquille de ce qu'il avait fait, c'était devant Dieu qu'il l'avait fait. Did, Réaliser qu'avoir une conscience tranquille, c'est une grande richesse.
And we should realize that to have a clear conscience is a great blessing.
Quand on voit les hommes politiques ou les hommes d'affaires pris dans des scandales,
when we see all these people involved in politics or business that get tied up in scandals,
des fois on se dit on est content, on peut s'endormir, la conscience tranquille.
We think sometimes it's nice that we can go to sleep at peace because we have a clear conscience.
On n'a pas leur argent, on n'a pas leur notoriété.
We don't have their wealth or their fame.
Mais on a un trésor encore plus grand, notre conscience tranquille.
But we have an even greater treasure, a clear conscience.
Paul continue en disant que il écrit pas pour les condamner, parce qu'il les aime de tout son cœur.
And Paul goes on in verse 3 to say that he is not writing to condemn them, and that he has them in his heart.
Il dit même à la vie, à la mort, c'est-à-dire que même si je mourrai, je veux continuer à vous aimer. C'est pas la mort, la peur de la mort qui va me faire changer de sentiment à votre égard. Les épreuves de la vie ne vont rien changer. Je vous aime.
And he tells them that whether dead or alive, nothing will change his heart toward them, that he loves them.
Et en cela, il est un imitateur de Christ.
And in that, he is an imitator of Christ.
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
God didn't send his Son into the world to judge the world, but to save the world through him.
Jésus lui-même a dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
And Jesus himself even said, I have come not to judge the world, but to save the world.
Et Paul, ce qui compte, c'est de voir les Corinthiens sauvés, les Corinthiens qui grandissent dans leur foi. Il veut leur communiquer cette confiance qu'il a en eux. Il sait bien sûr que la situation ne peut pas être parfaite. Mais il dit qu'il est rempli de consolation. Verset 4. Il va même plus loin, il dit qu'il déborde de joie. C'est-à-dire qu'il a la joie qui abonde, qui surabonde. Ce matin, on a dit, nous avons tous dit au Seigneur que nos cœurs débordaient de joie. Est-ce qu'on était sincères? Et non seulement il débordait de joie, là, pour Paul, il débordait de joie, mais il débordait de joie au milieu de son affliction. Au milieu des épreuves terribles. Nous avons entendu parler déjà de toutes ces épreuves, nous allons y revenir dans le courant de la lettre. Quelque part, ça nous montre que Dieu veut que nous subissions nos épreuves dans la joie. C'est quelque chose qu'il veut que nous, dont nous fassions l'expérience, la joie au milieu des problèmes. Si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez comme moi que ce n'est pas souvent le cas. Souvent, la seule joie que j'ai dans l'épreuve, c'est la certitude qu'elle va s'arrêter un jour. Et souvent, on ne fait pas l'expérience de cette joie parce qu'on refuse le réconfort que Dieu veut nous donner. Paul, lui, recueillait ce réconfort. Il le voulait.
Paul gathers this comfort. He desired it.
Parce qu'il avait été dans une grande épreuve lorsqu'il avait envoyé Tite à Corinthe.
when he sent Titus to Corinth.
Il était troublé, il avait peur de leur réaction.
He was troubled, he was fearing their reaction.
Au point que dans 2 Corinthiens 2,
to the point that in 2 Corinthians 2,
il leur explique qu'il était complètement paniqué.
He explains to him that he was completely panicked.
Qu'il était même... il était si déprimé
and so depressed,
qu'il est désespéré même de la vie.
That he had given up hope even of life.
Verset 12 de 2 Corinthiens.
In verse 12,
Il explique qu'il attendait le retour de Tite pour avoir connaître leur réaction, et il dit que lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine.
He explains that he was anxiously awaiting the return of Titus, and that when he arrived in Troas and Titus was not there, he had no rest in his spirit and went on to Macedonia.
Et plutôt au verset 8 du chapitre 1, il avait parlé de la tribulation qu'il avait accablé à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie.
And in chapter 8 of 1 Corinthians, he talks about the trials he had endured and coming to the point where he had lost hope of life.
C'est intéressant de savoir que le grand apôtre Paul lui-même était sujet au découragement et à la dépression.
It's interesting to note that the great apostle Paul was even subject to discouragement and depression.
Au point même qu'il n'avait pas tiré parti d'une porte qui lui était ouverte, c'est-à-dire une occasion de témoigner de Jésus.
To the point of not taking advantage of an open door where he could have been a witness for Jesus.
Et si Paul a été ainsi tenté, mis à l'épreuve, ne nous étonnons pas de nous-mêmes d'avoir des périodes de dépression ou de faiblesse. Nous avons un ennemi qui veut à tout prix nous décourager. Et qui va le faire d'autant plus que le Seigneur est à la veille d'une percée dans votre vie, dans votre ministère. Il y en a peut-être parmi vous qui cherchent la direction, qui sont découragés. Le conseil humain, c'est de ne pas prendre de grandes décisions quand on est déprimé.
Purely human advice would be not to make a big decision when you are discouraged.
Le conseil de la parole, c'est de chercher le Seigneur.
But the advice from the Word of God is to seek the Lord.
C'est lorsque nous sommes sur le point de voir de belles choses.
It's when we're on the verge of seeing good things.
Que l'ennemi va se déchaîner. Mais sachez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Amen.
Verset 6, c'est très beau là. Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour être le chouchou de Dieu, pensez à être humble.
Think about being humble.
L'humilité, c'est un thème récurrent dans la Bible.
Humility is a reoccurring theme in the Bible.
Et en fait, c'est tellement important parce que c'est simplement du réalisme, l'humilité. Si on se croit quelque chose de spécial,
special,
un don de Dieu à l'humanité,
that we're God's gift to mankind,
c'est que quelque part, on est complètement trompé. Et Dieu, il chouchoute les humbles.
God does cherish men.
Humble men.
Humble men.
Combien de fois il est dit, il résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
The Bible tells us he resists the proud, but gives his grace to the humble.
Dans Jacques 4, 6, 1 Pierre 5, 5, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles.
In 1 Peter 5, 5, it tells us that all of us are to clothe ourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
Luc, Jésus nous dit, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
In Luke, Jesus tells us that whoever elevates himself will be lowered, and whoever lowers himself will be raised.
C'est automatique, c'est presque un système de poulie.
Like
si on essaye de grimper, on va retomber de l'autre côté.
Up,
et Dieu, Paul se présente comme quelqu'un qui était humble. Et la preuve, c'est qu'il a été consolé par Dieu. Il était réconforté parce que il avait enfin retrouvé un compagnon d'armes, j'allais dire, un chrétien avec qui il avait une communion fraternelle. Et d'autant plus qu'il rapportait de bonnes nouvelles des Corinthiens.
And also because Titus brought back good news from the Corinthians.
Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le réconfort de Dieu au milieu des épreuves est venu par qui ? Par quoi ? Par l'intermédiaire d'une autre personne. Et typiquement, trop souvent, dans nos vies de chrétiens modernes, quand les choses vont pas, on s'isole. Il y a sans doute des personnes qui ne sont pas là ce matin parce qu'elles ne se sentent pas bien. Elles se disent, je veux voir personne. Souvent, les plus spirituels vont dire, je vais rester dans ma chambre à prier le Seigneur. Autrement dit, ils disent à Dieu comment il doit les consoler. Alors que peut-être le Seigneur a imaginé ou a décidé de les réconforter par une autre personne. Est-ce que vous sentez l'importance de ce mot de consolation pour Paul ? De réconfort.
Do you sense the importance of this comfort that was given to Paul?
La consolation, c'est quelque chose qui devrait être toujours dans nos idées.
Consolation is something that should always be in our thoughts.
Pas d'abord pour la recevoir, pour recevoir le réconfort.
Not first of all so that we can receive it.
Mais pour le donner aux autres. Généralement, si on les réconforte,
others,
nous serons réconfortés nous-mêmes de voir que notre vie sert à quelque chose. Donc, si ça ne va pas,
so if things aren't going well,
ne vous isolez pas.
Don't isolate yourself.
Si le Seigneur veut vous isoler, il trouvera les moyens, mais ne le faites pas de vous-même. Ne vous cachez pas.
Don't hide yourself.
donner aux autres l'occasion de vous voir aussi peut-être dans la vérité des difficultés. Si on vient ensemble seulement lorsque tout va bien, avec le sourire plastique, on donne aux autres l'idée que s'ils n'ont pas ce sourire, alors ils ne peuvent pas être là. Ou alors ils vont faire semblant d'avoir ce sourire. Et on va avoir la fausse joie hypocrite de certains milieux chrétiens. Soyons honnêtes et cela donne aux uns et aux autres la possibilité d'être des sources de réconfort. Et en fait, la consolation, elle produit une réaction en chaîne. Verset 7, Paul a été réconforté par l'arrivée de Tite. Mais il était consolé parce que Tite avait été consolé par eux. Si on se console tous les uns les autres, ça grandit. Tite lui avait raconté leur désir ardent, les pleurs, le zèle pour moi, et ça avait rendu sa joie encore plus grande. Et verset 8, Paul, on dirait un politicien. Il regrette d'avoir écrit cette lettre sans regretter d'avoir écrit cette lettre. Je regrette, mais je ne l'ai pas regretté, je ne regrette plus. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Non, là je crois encore qu'il est honnête. Il dit sur le coup, je me suis demandé si c'était une bonne idée. Et c'est là que je me suis dit peut-être que je vais avoir à regretter d'avoir écrit cette lettre. Mais lorsqu'il a vu le résultat, le fait que ça les a conduits à changer de voie, alors là, il n'a aucun regret. Il était triste de leur avoir infligé une certaine tristesse, mais il se réjouit encore plus de ce que maintenant ça les a guéris quelque part. Et la lettre les a attristés, c'est sûr. Sur le coup, lorsqu'ils ont reçu la lettre, ça leur a fait mal. Mais il y a des fois des choses honnêtement dites qui font mal, mais qui en même temps font du bien. Proverbe dit que la blessure d'un ami est meilleure que les paroles fausses d'un frère. Compliment d'un frère. Et en fait, toujours Paul, il ramène la perspective. Attendons, voyons en termes de temps. Et c'est vrai que lorsqu'on s'adonne au péché, on fait l'expérience d'un plaisir. S'il n'y avait pas ce plaisir, on ne commettrait pas le péché. Mais le plaisir est passager. Et il donne lieu à une tristesse, à un remords qui dure plus longtemps. Par contre, si nous suivons Dieu, nous pouvons avoir des moments difficiles. les moments où il nous convainc de pécher. Ce n'est pas toujours drôle à recevoir, la conviction du Saint-Esprit. Mais cette tristesse passagère, elle va donner lieu à une joie qui va durer, elle. Et donc, verset 9, il dit, je ne me réjouis pas de ce que vous avez eu un moment de tristesse lorsque vous avez reçu mes remarques, mes réprimandes. Mais parce que vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. Et il va faire une comparaison entre la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Et là, il leur fait remarquer que lorsqu'il y a une tristesse selon Dieu, il n'y a pas de dommages permanents qui sont causés. Sous-entendu que lorsque ce n'est pas selon Dieu, ça pourrait faire des dommages permanents dans la vie d'une personne. Chez certains, il peut avoir un plaisir à reprendre les gens méchamment. On peut les attrister avec des choses exagérées, avec des choses fausses. Et quelque part les briser pour Dieu. Les faire reculer de Dieu. La tristesse selon Dieu, elle produit une repentance, verset 10, qui mène au salut que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. La tristesse du monde, c'est ce qu'on appelle souvent les regrets ou les remords. La tristesse selon Dieu, elle va donner lieu à la repentance, le repentir en français moderne. Qui mène lui-même au salut, le repentir qui mène au salut. Alan Redpath, un auteur anglais, a dit que le remords, c'est dire « Je suis désolé pour le mal que mon péché m'a fait. »
Alan Redpath, an English author, said « Remorse is saying I'm sorry for the hurt that my sin caused me. »
C'est une vision égoïste des choses.
It's an egotistical vision of things.
Quelque part, je regrette de m'être fait pincer. Et la prochaine fois, quand j'en aurai l'occasion, j'essaierai de faire mieux pour ne pas me faire attraper. La repentance, d'après le même auteur, c'est dire « Je suis désolé pour le mal que mon péché a fait à Dieu et aux autres. » Et le mot de repentance, c'est étymologiquement, c'est un changement de pensée.
And the word for repentance, etymologically, is that you're going to change direction.
Un changement de pensée qui va conduire à un changement d'action.
A change in thinking that will change action.
C'est un demi-tour d'attitude qui va conduire à un demi-tour de conduite. Ce n'est pas une émotion, c'est une action, la repentance. Il y a une partie d'émotion, mais avant tout, c'est une action. C'est le mot traduit en latin, ou par le latin, qui nous a donné le mot conversion. C'est la période des sports olympiques. des jeux d'hiver. Et une technique qu'on voit plus, c'est la technique de la conversion. Il y en a qui connaissent l'ancienne technique de la conversion. Oh, j'ai pas entendu. C'était simplement une façon pour les débutants de changer de direction. Quand on ne sait pas tourner avec les skis aux pieds, on prend un ski et on le met de l'autre côté, comme ça. En se retenant avec les bâtons,
and hold ourselves up with the poles,
on essaye de lever l'autre pied
and we try to lift up the other foot.
Pour changer de direction. On est arrivé à la fin de la pente d'un côté, si on veut continuer, il faut changer de direction. La repentance, c'est de réaliser qu'on est arrivé au bout d'une route qui mène à rien. Qu'on a laissé Dieu, qu'on est allé vers le péché, vers la souffrance finalement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on décide et on effectue une conversion. On se retourne et on va dans l'autre direction. Deux exemples dans la Bible qui montre un peu la différence entre la tristesse selon le monde et la tristesse selon Dieu. Il s'agit de deux apôtres qui ont laissé tomber le Seigneur. C'est Pierre qui avait renié le Seigneur. Il s'était souvenu de la parole de Jésus: avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et lorsqu'il avait réalisé ça, il était sorti, il est dit dans Matthieu 26, et il avait pleuré amèrement. Judas lui avait trahi le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Mais il ne s'est pas vraiment repenti. Il est dit dans Matthieu 27, 3 qu'il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au sacrificateur. Il était triste des conséquences du péché que ça allait apporter dans la vie de Christ, mais surtout dans sa vie. Et la sagesse, pardon, la tristesse selon Dieu, elle mène au salut. Par l'intermédiaire de la repentance, mène au salut. Alors là, on peut se dire, mais alors il suffit de se repentir, de pleurer, d'avoir vraiment... non, en fait, le salut, on sait que ça vient par la grâce. Par le moyen de la foi, nous dit Paul par ailleurs. Je ne peux rien faire pour mériter l'amour de Dieu, son acceptation. Jésus est mort pour moi sur la croix. Son sacrifice a été accepté. Dieu l'a ressuscité. Et si j'accepte ce sacrifice, si je remets à Jésus mes péchés, alors je suis sauvé. Et ça, bien sûr, ça va s'accompagner, si c'est réel, d'un sentiment de repentance. Et la repentance, lorsqu'il est dit qu'elle produit le salut, c'est pas le salut d'avoir la vie éternelle avec Dieu, La repentance, on peut dire qu'elle accompagne le salut. Le salut, on peut dire que c'est trois éléments. C'est le fait d'être accepté par Dieu. Ce que les théologiens appellent la justification, être déclaré juste par Dieu. C'est comme un coup de tampon qui dit justifié. Mais le salut, c'est aussi la transformation que Dieu va effectuer dans notre vie. Il nous a acceptés, mais il ne va pas nous laisser dans l'état où nous étions. Il va nous transformer à l'image de son Fils. C'est ce que les théologiens appellent la sanctification. La justification, cet acte initial, c'est un acte momentané, instantané plutôt. La sanctification, c'est un processus qui va durer toute la vie. Il y a une autre phase, c'est ce qu'on appelle la glorification. Avec Jésus-Christ dans les cieux.
With Jesus Christ in the heaven.
Pour nous, ça a l'air très loin, très hypothétique.
And for us, that seems very far off, hypothetical.
Mais Dieu qui est en dehors du temps,
but God who is outside of time,
il voit les trois choses en même temps.
He sees all three of these things at the same time.
Il voit le coup de tampon
he sees the stem
sur la viande. Il voit le travail d'attendrissement de la viande. Et il voit la viande glorifiée. C'est pas une bonne image, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Oubliez ça, on effacera. Mais Dieu voit tout ça en même temps, c'est le salut. Et la repentance, elle va conduire à cette justification. Ça va être la repentance initiale.
So the initial repentance leads to justification.
Mais nous qui sommes déjà sauvés, nous devons continuer à marcher dans la repentance.
But those of us who are already saved need to continue walking in repentance.
Des grands hommes de Dieu ont parlé beaucoup de la repentance.
The great men of God have spoken much about repentance.
Spurgeon disait, j'aime désespérément la repentance. Paul a dit dans Actes 20-21 en fait qu'il a résumé l'évangile en disant que c'était la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
Paul summarizes the gospel in Acts 20, verse 21 by saying that repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ is what he is testifying to.
Et Spurgeon disait qu'en fait la repentance c'est la sœur jumelle de la foi. La foi qui sauve, elle ne peut pas exister indépendamment d'une repentance constante.
Saving faith cannot operate without ongoing repentance.
Et alors, lorsqu'on est attristé, il est facile de savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient du monde. Il faut voir les effets.
We need to look at the effects.
Ça peut prendre du temps. La tristesse, selon Dieu, elle n'est pas mesurée par le volume des larmes versées. C'est pas qu'on pleure ou qu'on ne pleure pas qui fait qu'on est vraiment dans la repentance. Que la tristesse vient de Dieu, c'est dans le changement de vie qui va suivre ou non. Paul continue en disant, cette même tristesse de Dieu, quels bons effets elle a produit, quel empressement, verset 11, des excuses, une indignation. Alors, l'empressement, c'était un sérieux dans leur détermination à changer. Les excuses, c'était, ils ont demandé pardon. Il y avait une indignation vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur folie. Il y avait de la crainte probablement pour leur faiblesse devant le péché. Un désir ardent de revoir Paul. Zèle de bien faire. La punition peut-être sur la façon dont ils avaient traité la personne ou une revanche sur leur attitude passée. Vous étiez pur, ça veut dire maintenant, après avoir demandé ce pardon, vous êtes vraiment pur. Verset 12, on ne sait pas si l'offense, ça consistait aux critiques injustes de Paul ou au fait qu'il n'avait pas à l'offense de cet homme qui vivait dans l'inceste avec sa belle-mère. Mais ce qu'il voulait, c'était de voir une réaction parmi eux devant Dieu. Verset 12. Et Paul a donc été consolé par leur réponse. C'est pourquoi, encore une fois, nous avons été consolés. Paul avait vraiment besoin de consolation. Qui n'a pas besoin de consolation aujourd'hui dans cette salle ? Commençons à la donner à ceux qui en ont besoin. Peut-être que nous la recevrons nous aussi. Et c'est très beau la façon dont Paul parle d'eux. Il dit, verset 14, si je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai pas eu lieu d'en rougir. Autrement dit, il s'était enorgueilli des Corinthiens auprès de Tite. Il avait dit, ce sont des gens formidables, tu vas voir. Paul connaissait les problèmes, mais il s'attendait au mieux. Il savait qu'avec Dieu, ces gens qui même avaient des problèmes, des péchés, ils pouvaient progresser. Au point que lui s'en glorifiait déjà à l'avance. Il est content de voir qu'en fait Tite a vérifié sur place les propos de Paul. Ils ont même reçu l'envoyé de Paul avec crainte et tremblement. Montrant qu'ils avaient peur de mal le recevoir peut-être et de décevoir Paul. Verset 16, nous y revenons. Je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. J'ai dit, quelle est la différence entre 1 Corinthiens et ce verset où nous arrivons dans 2 Corinthiens ? C'est la repentance. La repentance, un pasteur anglais qui venait souvent à Seattle. Dit, c'est une idée qui a disparu dans les prières, dans le témoignage, dans la prédication. Et pourtant, c'était le message des prophètes.
And yet it was the message of the prophet.
C'était le message de Jean-Baptiste.
It was the message of John the Baptist.
Ça a été le premier message de Jésus.
It was the first message of Jesus.
Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche.
Repent, because the kingdom of heaven is at hand.
La repentance, continue cet auteur, ça n'évoque, ils disent, elle est essentielle à cause de la noirceur du péché. Et tous les hommes de la Bible qui se sont trouvés en présence de Dieu, qui ont une vision de la sainteté de Dieu, ont aussitôt eu une vision de la noirceur de leur péché. Quand on est tous ensemble, tous dans la cave, dans le noir, on ne s'aperçoit pas de la suie qui est sur notre visage.
We can't see sweat on another person's face.
Soot. Soot.
Oh, dirt.
Soot. Mais quand on vient au soleil,
but when we come out into the sun,
à ce moment-là, on va voir la noirceur du péché sur nous.
We'll see the darkness of sin on us.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se repentir ? Demander pardon à Dieu et de changer de direction. Demander pardon aux autres et de changer de comportement avec eux. C'est parce que c'est humiliant. Ça va contre notre orgueil. Et lorsque je me repens publiquement, des fois, je dois admettre que des fois je suis conduit à ne pas recommencer. Peut-être pas parce que je regrette vraiment le péché, mais parce que je ne veux pas avoir à me repentir publiquement de nouveau. Mais la vraie repentance, c'est de voir la noirceur de mon péché. Comme on l'a dit, la repentance n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais c'est repentance envers les hommes et les femmes qui nous entourent. Et cet auteur, il était tellement marqué par le message de leur repentance que pour lui, c'était devenu la mesure de la maturité chrétienne d'une personne. Être un vrai chrétien, ce n'est pas de connaître la Bible par cœur, d'avoir toujours une réponse aux questions que les gens peuvent poser, d'être un bon orateur, d'être un bon musicien chrétien. La maturité chrétienne, elle se mesure à la repentance dans votre vie. Et cet homme, Stanley Vaux, qui est décédé il y a quelques années, lorsqu'on lui présente, on lui parlait de quelqu'un qu'on trouvait spirituel, sa question toujours avec un merveilleux accent anglais que j'essaierai pas d'imiter, parlait en anglais, il disait, cet homme, il est intelligent, très bien. Il a fait des longues études théologiques avec succès, très bien. Il a beaucoup de dons spirituels, c'est très bien. Il a amené beaucoup de personnes au Seigneur, formidable. Ah, il a une église, une grande église déjà. Très bien. Mais est-ce qu'il se repent?
But does he repent?
Does he repent, he would say. Est-ce que nous nous repentons? pour que la tristesse selon Dieu produise cette repentance, ce fruit dans nos vies. Humilions-nous jusqu'à la repentance. Et puisse cela être un mode de vie parmi nous. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci qu'on y apprend que tu as horreur de l'orgueil. Mais que tu relèves les humbles, Seigneur, tu les consoles. Seigneur, aide-nous à vivre dans l'humilité, à recevoir ta discipline, Seigneur, à savoir que quand nous avons cette tristesse qui vient de toi, ce regret d'avoir péché, d'avoir fait du mal à nos proches, de savoir que si elle est selon toi, alors il va y avoir vraiment cette repentance qui va produire du fruit dans nos vies.